Vous écoutez
RMC.
On est ensemble sur RMC jusqu'à 5h du matin. On vous suit jusqu'au bout de la nuit. Dans quelques minutes, le coup d'envoi du match entre les États-Unis et le Paraguay. Walida Cherchour est là, Maxime Chano. Et notre invité, c'est Mike, un restaurateur où tout le gratin français-américain se déplace.
Pas que le gratin dauphinois.
Baratin. Pas que le gratin dauphinois. Je sais que tu fais un très bon gratin dauphinois, notamment dans ton restaurant sur West Village. Tu vas nous raconter un petit peu les coulisses de cette aventure au baratin avec de nombreux sportifs présents. Mais on va tout de suite retrouver Valentin Jamin. Valentin, on l'a dit, le coup d'envoi dans quelques minutes et surtout l'entrée des joueurs sur la pelouse avec un moment fort. On le sait, à chaque fois que l'hymne américain retentit dans une compétition américaine, c'est vraiment prenant. Et ce soir, on va le vivre ensemble en direct. L'hymne paraguayen en premier et puis l'hymne des Américains. Katy Perry vient de terminer sa chanson.
Oui, tout à fait, avec donc cette robe qui t'a pas plu, qui était grise, un petit peu évasée au niveau des hanches et qui tombait tout droit, pour décrire un petit peu argentée. Elle est partie et là les joueurs sont dans le couloir, les regards concentrés bien évidemment, les regards fermés pour Team USA qui accueille la compétition pour la première fois depuis 1994. Il y a de la pression, il y a de l'attente, le stade est plein, nous dit-on, le SoFi Stadium de Los Angeles, pour accueillir l'entrée en lice d'un des trois pays hôtes de cette Coupe du Monde. Les États-Unis qui vont disputer leur 12e Coupe du Monde, les Paraguayens, eux, vont disputer leur 9e compétition. On l'a dit, ça fait 16 ans que ce petit pays d'Amérique du Sud, eh bien, attend de retrouver la plus belle, le plus beau des tournois. Tout le monde est dans le couloir. Pour l'instant, concentration, Orlando Gil, le gardien paraguayen qui mâche son chewing-gum, qui sautille sur place. On attend évidemment l'entrée et les drapeaux qui sont en train d'être étendus sur cette pelouse du SoFi Stadium. On va avoir la cérémonie qu'on connaît maintenant avec les joueurs qui vont se mettre en cercle autour du rond central à côté de leur drapeau.
C'est vrai que le stade est absolument magnifique. 70 000 personnes. Valentin nous dit que finalement il a guichet fermé parce que c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de place. Peut-être qu'ils ont fait quelques réductions, mais c'est absolument sublime ce stade. Le stade qui sera aussi évidemment l'un des acteurs pour les JO de 2028. T'as joué là, hein, Maxime ?
Non, j'ai pas joué dans ce stade.
T'as jamais joué dans ce stade ?
Non, non, c'est les footballeurs américains qui jouent. Moi, on avait notre propre stade à Los Angeles, mais pour le coup, pour avoir été voir. Pour aller voir un match sur place, c'est juste exceptionnel.
Tu peux pas faire semblant comme si tu avais joué ?
Bon, bah oui, j'ai joué, Karine, c'était vraiment sympa.
Maxime, est-ce que tu es un bon nageur ? Parce qu'en 2028, ce sera la piscine olympique des Jeux de Los Angeles.
C'est Léo Marchand,
Exactement. Sache que je suis un très bon nageur et je suis pas mal au ping-pong, Il y a un tournoi de ping-pong bientôt.
Le ping-pong au JO, bien sûr, les frères Lebrun.
Il va falloir que je choisisse la discipline. Alors. Je vais peut-être rester dans le foot.
Mais peut-être que le ping-pong avec le Luxembourg, ça peut passer. Il y a pas.
Je serai sûrement sélectionné.
Top 3 pongistes de Luxembourg, c'est sûr ça.
Peut-être chez les nageurs, ça passe aussi. De toute façon, au Luxembourg, tu peux facilement être qualifié pour une épreuve, non ?
Ça y est, tout de suite le Luxembourg.
Excuse-moi, c'est ton pays.
Oui, je sais, mais bon, écoute, on a beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités.
Mais tu peux m'en citer ?
Non.
T'en as un à côté de toi, t'as un ex-sportif.
Oui, non, mais bien sûr, non, mais je veux dire, si par exemple le champion du monde du 100 mètres était luxembourgeois, on le saurait.
Les frères Schleck, par exemple.
Plus Andy que Franck. Andy, c'était mon vélo.
Et le numéro 2 de l'équipe nationale, Chano, tu le connais aussi ?
Qui ?
Chano.
Maxime Chano ?
Dans ses grandes heures.
Très bien.
Mais moins au JO.
C'est pas qualifié, malheureusement.
Il y a eu un petit couac, a priori.
On l'a plus vu au bar de Mike qu'au JO, je crois.
Oui, alors là, au baratin, médaille d'or. Mike, tu peux nous le confirmer ?
Ah oui, il est sur toutes les boîtes. Il est sur toutes les boîtes. Voilà. Toutes les boîtes à podium, il est dessus.
Il a reçu. J'ai ma famille qui écoute.
On les embrasse d'ailleurs.
Il dort.
Toutes les médailles possibles au baratin pour Maxime Chano. Valentin, on est avec toi, on le rappelle. Donc le coup d'envoi dans quelques secondes et les hymnes nationaux qu'on va vivre dans ce stade sublime de Los Angeles.
Il est magnifique, avec trois étages, trois niveaux, des LED qui éclairent à chaque fois à chacun de ces niveaux. Également, il y a un écran en haut de ce stade qui montre un petit peu à toutes les tribunes ce qu'il se passe. Et donc les joueurs qui ont fait le protocole en avançant sur cette pelouse, ils sont entrés par le coin de cette pelouse. Ils se sont mis autour du rond central, les Paraguayens veste bleue qui entendent leur hymne. Voilà pour cette hymne du Paraguay, avec beaucoup de supporters bien évidemment qui sont venus d'Amérique du Sud, ce maillot mythique rayé rouge et blanc. Et maintenant, grand moment, la bannière étoilée, l'hymne des États-Unis.
Donc l'hymne américain avec des guests absolument incroyables. C'est-à-dire que évidemment quand on est aux États-Unis, tout est XXL. On a Tom Cruise, on a David Beckham, on a Victoria Beckham, on a Matthew McConaughey. Bon, qu'on sait en France, nous on a des acteurs un petit peu plus low cost.
Mais respectons nos acteurs français, Karine.
Ben oui, mais bon, quand tu vois les acteurs américains, c'est ça en jette un petit peu plus.
C'est pas la même catégorie. C'est pas la même catégorie. Si, si.
Voilà.
Et par contre, j'ai une petite analyse capillaire sur le changement capillaire de Pochettino.
Ça te plaît?
Il me fait penser à. Comment il s'appelle l'acteur qui faisait Alexandre le Grand? Comment il s'appelait l'acteur, tu l'as pas? Russell, non, c'était.
Russell Crowe?
Ouais, ouais, il a un côté un peu Russell Crowe.
Il faisait Gladiator, surtout.
Oui, il faisait Gladiator,
ah, oui, j'aurais commencé par Gladiator.
Oui, voilà.
Oui, mais il a pas un côté un peu. La coupe un peu.
Donc on est d'accord que c'est pas un compliment, là, que tu lui fais.
Non, il y a un style, en tout cas, il y a une direction artistique, en tout cas, il y a une nouvelle DA.
Bah écoute, on va voir si ça le porte et si ça lui permet d'être un Gladiator incroyable. Mike, on t'a vu la main sur le cœur. Alors je comprends plus, t'es américain ou t'es français?
Je suis né, grandi, c'est américain.
Ok, donc quand il y aura un USA France, tu seras pour qui?
Si ça arrive un jour, je serai à la radio américaine quand on parlait de qu'est-ce que c'est d'être français.
Si tu vas te positionner, tu prends la France ou les États-Unis?
USA, baby.
Ah,
ok, bon,
ben
c'est très franc.
Tu peux sortir,
c'est que le tennis, je suis français. Ah, tennis, no matter what, je suis français.
Bah, pourtant, les Américains étaient bien meilleurs que nous, les Français. Je veux dire, les Pete Sampras, les Agassi, les
McEnroe. J'aime bien souffrir.
Tu vois, Serena Williams qui revient.
Elle revient.
Non. Bon, Coco Gauff.
C'est la famille, Coco, c'est une de mes plus grosses clientes. Alors.
D'accord.
J'ai un petit quelque chose pour Coco.
Ah oui.
Ah, ben on va en parler dans quelques minutes, peut-être que nous intéresse. Coco Gauff, on adore.
Et coachée par Jussé Porel, qui est un Français qui est un frère.
Et je me suis trompé d'acteur, hein. C'est Colin Farrell. Je voulais parler de Colin Farrell.
Oui, ça n'a rien à voir.
Il a un côté un peu Colin Farrell.
Colin Farrell, il avait fait un film dans une télécabine. Dans une. Non, comment on appelle ça là?
Cabine téléphonique?
Oui, c'est ça.
C'est Jean-Claude Duss, c'est le bronzé faux du ski.
En tout cas, les qui suis-je pour trouver les objets sont très intéressants d'abord.
Mais t'as compris tout de suite?
Ah oui, bien sûr.
Cabine téléphonique.
Ah, parce qu'en fait, avec le mime, notamment avec les mains, je pense que.
Mais tu l'as ce film?
Bien sûr, je l'ai.
Voilà. C'était quand même.
Je l'ai pas du tout.
Alors, je vous.
Ah, c'est Fun Game,
Voilà.
Ah, bien sûr, ok, d'accord.
Exactement. Et donc, ça se passe dans une cabine téléphonique.
Très bien.
Et c'est avec
C'est Pochettino qui a fait le film.
Eh bien, il semblerait.
Mais Colin Farrell, Pochettino a un côté un peu Colin Farrell, Alexandre Legrand.
C'est pas mal. Écoute, on est toujours avec Valentin, évidemment, qui est critique cinéma également et commentateur.
Ah, mais là, j'ai pris un shot de culture, c'est impressionnant. Là. J'ai l'impression d'être bien plus intelligent que tout à l'heure.
Ah, on dormira moins bête. Hein.
Qui va nous commenter ce USA Paraguay. On rappelle, hein, c'est le troisième pays organisateur qui entre en lice ce soir. Le Mexique a gagné 2-0 face aux Sud-Africains. Le Canada a été bloqué par les Bosniens 1-0. On débriefera d'ailleurs ce match nul entre les deux formations. Le Canada qui a dominé mais qui n'a pas pu faire mieux que match nul. Et donc les USA qui sont maintenant en lice face au Paraguay. Valentin, le coup d'envoi est imminent. Et au niveau des températures, a priori, Maxime, à Los Angeles, c'est comment ? C'est similaire à New York ou c'est plus respirable ?
En règle générale, il fait quand même beaucoup plus chaud à New York et encore plus quand t'es à Manhattan, t'imagines bien avec les tours. Mais c'est vrai qu'on a aussi très très chaud. Après, c'est un peu plus modéré hein, sur toute l'année à Los Angeles. Mais bon, j'ai pas de doute à mon avis qu'il risque
24 degrés actuellement. Donc c'est là, parfait. C'est totalement jouable.
Voilà. Voilà. Merci Miss Météo.
Voilà, tu vois, comme quoi, quoi,
on a Catherine Laborde. Attention, parce que là,
il y a du lourd.
Elle peut être challengée.
Mais c'est très important parce que là, à New York, on ne respire pas. Donc, Valentin, les conditions sont optimales. 24 degrés. Il y a tout qui est réuni pour du beau football.
Et il y a du soleil. Et il y a 22 joueurs qui sont prêts à donner le coup d'envoi. L'arbitre, c'est le néerlandais Danny Makiele, une pointure dans son domaine. Et ce sont les Paraguayens qui vont entamer cette partie avec leur maillot, donc je disais traditionnel, rouge et blanc. J'ai presque un doute parce qu'on a les mêmes couleurs des deux côtés. Le coup d'envoi est donné. Sur le côté gauche, c'est ça, hein, le long dégagement, parce qu'on nous a montré les vestes qui étaient couleur opposée, c'est bien les États-Unis en rouge et blanc, et ce maillot extérieur pour le Paraguay, joueur Julio Enciso, maillot bleu marine, et sa teinture blonde, Julio Enciso, le Strasbourgeois qui était incertain, lui qui avait pris un coup à la cheville lors du dernier match face au Nicaragua, victoire 4-0 du Paraguay. On avait même dit du côté de son sélectionneur qu'on l'attendait plutôt pour le deuxième match, il est bien là, le joyau du Paraguay. Les Américains qui ont une première possession dans le camp paraguayen, justement, il y aura une faute au milieu de terrain qui va être signalé par monsieur Makiele sur un duel faute des États-Unis sur un milieu de terrain paraguayen. 36e seconde de jeu, on voit Mauricio Pochettino qui effectivement a les cheveux un peu plus longs, un peu plus ramenés vers l'arrière, la petite chemise assortie au pantalon
apparemment.
Ouais, la classe, la classe. Ouais. Pour mes, je vous laisse la culture. Moi, je me concentre sur le sport et c'est déjà bien, bien dur. Mais possible, en tout cas, c'est pas le même Pochettino qu'à Paris, qu'à Tottenham ou qu'à Chelsea. C'est vrai qu'il a un CV ronflant, le sélectionneur, arrivé en 2024. Le coup franc dans le rond central pour le Paraguay, il a été joué par Gomez sur la gauche avec son compère de la défense centrale, le long ballon en profondeur vers Sanabria qui est à gauche de la surface. Le centre en retrait coupé au premier poteau. La frappe et la claquette tout de suite de Matt Fries. On va arriver au second poteau maintenant. Le nouveau centre de la droite, le dégagement catastrophe là de la barre de Robinson, me semble-t-il, en touche. Mais les Paraguayens qui attaquent fort avec ce premier débordement de la gauche. C'est Marcos Alonso, je crois, qui était venu amener un petit peu de soutien après ce débordement de Sarabia, en tout cas passe verticale.
Je pense que si le 8 tombe, il y a pénalty.
C'est Diego Gomez.
Je pense que parce que
si le 8 tombe, ouais.
Je crois qu'il est en retard, le défenseur américain. C'est et Robinson. Il joue mal le coup, je trouve.
Ouais, Diego Gomez qui avait surgi sur cette passe de Sanabria. La longue touche là de la droite pour le Paraguay. La tête défensive, ça reste un petit peu au niveau de la surface américaine. Et finalement le ballon qui revient dans les pieds paraguayens. On va repasser en retrait avec la charnière, avec Gomez qui va la mettre loin à gauche vers Alonso. Ce sera bien trop profond et ce sera directement dans les bras du gardien de New York City, Matt Fries. Troisième minute de jeu, 0-0. Mais le Paraguay s'est montré dangereux et Matt Fries dans cet angle fermé sur cette lourde frappe, ou plutôt centre, de Diego Gomez qui a déjà dû intervenir en décalant ce ballon. Il va relancer avec le capitaine Tim Ream. On a bien cette défense à 3 centraux. Il s'appuie sur Richards qui va aller voir maintenant sur sa droite avec Freeman. Le long ballon dans le couloir avec Dest, me semble-t-il, qui a fait l'appel, qui va la mettre de la tête vers Balogun dans la surface de réparation. La frappe de Balogun et l'arrêt tranquillement d'Orlando Gill qui vient capter ce ballon et la réponse immédiate de la part des Américains. 3 minutes
bien,
de
ça
jeu.
Ça commence bien cette histoire.
0-0.
En tout cas, les Américains, ouais, qui commencent plutôt bien. Il y a eu un super appel hein, de la part de McKinney. Hein. Il est intéressant dans ce genre de profil hein, où est-ce qu'il n'hésite pas justement à prendre la profondeur, un petit peu à changer de poste entre guillemets.
Il a encore le ballon, McKinney qui va mettre sur sa droite à Folarin Balogun. Derrière lui, il y a Dest. Il y avait surtout hors jeu, j'ai l'impression, de la part de soit McKinney soit Balogun au départ. On va rendre le ballon. Je te laisse finir, Maxime. Mais c'est effectivement la projection de McKinney qui a amené de la profondeur aux Américains.
Vraiment dans le dépassement de fonction, McKinney, il est vraiment intéressant avec un Balogun qui tourne un petit peu autour de lui. Je pense que ça peut être vraiment vraiment intéressant pour les Américains s'ils continuent justement à appuyer sur ça. On connaît aussi la défense paraguayenne hein, qui est aussi un petit peu lente, et justement côté Paraguay, s'il y a un joueur qui a envie de briller aujourd'hui, c'est Miguel Almirón, qu'on connaît du côté Newcastle hein, bien évident, qui est rentré depuis à Atlanta en MLS et qui est un super joueur, en tout cas qui a une très très belle côte côté États-Unis, en tout cas aux États-Unis dans la MLS. Donc voilà, je sais que ça va lui tenir à cœur justement de faire une grande compétition entre guillemets chez lui.
et il a marqué 10 buts en 76 sélections. Miguel Almirón, 32 ans. C'est vrai que c'est une équipe avec des joueurs assez expérimentés, hein. 32 ans Almirón, Sanabia devant à 30 ans. En défense, Gomez, 33 ans. Alonso, 33 ans. Et au milieu, Andrés Cubas, ancien Nîmois pour les puristes du foot français, à 30 ans. Et lui joue à Vancouver, Maxime. La longue touche paraguayenne directement 6 mètres. Elle va être rendue, cette balle, à Matt Fries, qui va pouvoir éventuellement se dégager. Les Américains qui donc ont répondu par Balogun, qui ont perdu leur dernier match de préparation. C'était face à l'Allemagne 2-1 après avoir battu le Sénégal 3-2. Et avant, il y avait eu deux défaites face aux Portugais et face aux Belges. 2-0 face au Portugal et défaite 5-2 face à la Belgique. C'est ça aussi, hein, qui avait semé un petit peu le doute et des questions en mars et en avril du côté des hommes de Mauricio Pochettino. On a joué le 6 mètres court. Le ballon est de retour dans les pieds de Matt Fries, qui va mettre sur sa gauche à Tim Ream, l'ancien de Fulham, qui joue aujourd'hui à Charlotte, qui repasse par son gardien Matt Fries sur sa droite avec Richards qui avance, balle au pied, il n'est pas pressé pour l'instant par les Paraguayens. Un décrochage au milieu de terrain de Tyler Adams, me semble-t-il. En tout cas, on a le temps de s'organiser pour décaler encore à gauche avec Rim, qui va passer le milieu de terrain légèrement décalé sur le côté gauche et qui va tranquillement transmettre à un coéquipier. On va repasser dans la défense avec Richards, qui va maintenant la mettre à droite avec Freeman, qui va appuyer sur le côté avec Serginho Dest ou McKennie encore, qui a pris le couloir. Non, c'était McKennie, c'est ça? C'était McKennie et Dest qui se réaxe
à s'enfoncer dans la défense paraguayenne, hein. C'est sa grande force aussi, hein, le dépassement de fonction. C'est vrai qu'il est vraiment très très utile dans ce collectif américain. Moi, je suis un petit peu surpris par le pressing la position des Paraguayens, hein, qui sont quand même positionnés assez bas. On sent vraiment qu'ils craignent les Américains, c'est assez surprenant. Alors, est-ce que c'est parce que les Américains jouent à domicile, visiblement les Paraguayens qui vont essayer de les contrer, ça se sent, hein, sur les transitions offensives. Mais ouais, clairement on voit qu'il y a une équipe qui est un peu plus entreprenante que l'autre, et pour l'instant c'est vrai que c'est les États-Unis.
Et là ça se bagarre, 6 minutes de jeu, 0-0, et on va dire une situation de chaque côté pour le moment.
Merci beaucoup Valentin, on reste évidemment avec toi pour tous les points chauds et les buts s'il y en a. On est avec Mike, vous le savez, restaurateur à New York, le chef du Baratin. Mike, alors raconte-nous cette histoire. Donc le Baratin, c'est un restaurant français qui se situe à West Village, donc un quartier de New York, et tu as effectivement beaucoup de clients qui sont des Français sportifs. Ça a commencé notamment avec les joueurs de tennis, parce qu'il y a notamment l'US Open, bien évidemment, qui se joue dans quelques temps, hein. Ça sera fin août, début septembre.
Fin août. Ça a commencé en 99 au restaurant de mon père, qui s'appelle Le Tout Va Bien à l'époque, et on a eu un joueur qui est venu un jour et pendant les US Open, pendant les qualifs. Et on est devenus amis. Et tout ça, c'est devenu un deuxième joueur, un troisième joueur, un quatrième joueur.
Dis-nous, quel joueur? Raconte-nous.
Bah, c'était Jérôme Golmar, qui est décédé maintenant, qui était le premier. C'est lui qui a... J'ai toujours dit, tout ce qui est sport, c'est lui qui a commencé.
Valentin, le but.
Et l'ouverture du score, l'instant même, pour Balogun et pour les États-Unis, 7e minute de jeu. Est-ce que c'est bien Balogun? Ça contre son camp. On a vu là le plan sur le défenseur paraguayen. Balogun était juste derrière. 7e minute de jeu. Et après ce débordement de la gauche et ce centre, le ballon propulsé par un paraguayen, un défenseur central, peut-être Gomez, le capitaine, dans son propre but. On montre pour le moment Freeman à l'image, qui doit être impliqué dans l'action. En tout cas, les Américains profitent d'une erreur paraguayenne après avoir été entrepreneurs et mettent déjà.
C'est un très bon travail de McKennie qui, au milieu de terrain, va décaler sur le côté. Après, c'est Pulisic, la magie de Pulisic qui va s'insérer entre deux défenseurs. Et après, t'as un petit coup de flipper avec encore une fois McKennie qui va la donner à Balogun. Et derrière, on a la grosse erreur du défenseur paraguayen, ouais, qui la met dans ses cages.
Qui met un vrai CSC, hein. Gomez, c'est bien lui. La passe de McKennie. En tout cas, gros boulot de Pulisic, t'as raison. C'est un double contact quasiment, en tout cas une petite virgule pour le joueur du Milan, pour derrière envoyer à McKennie.
Il montre toute sa réussite technique, hein, Pulisic, hein,
et McKennie, gros volume sur le but aussi.
Exactement. À l'instar de son début de match, hein, McKennie qui fait cette course dans la défense paraguayenne, qui attire deux joueurs, et ça permet justement à Pulisic de se retrouver dans cette situation de 1 contre 1. Et puis derrière, malheureusement, il y a ce joueur paraguayen qui pousse le ballon en catastrophe dans son but. Ça fait 1-0 pour les États-Unis. Début, c'est un super début. Hein.
Début parfait.
Entame de match.
Et au passage, on parlait de tennisman français, McKennie, sosie de Joe Tsonga.
Ouais,
Ah ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal.
Sosie de Joe Wilfried.
C'est pas mal. En tout cas, Mike, t'avais raison également. T'as dit les USA vont faire une entame de match très bonne, ouais, avec un but rapide. Ça a été
le
cas.
Foot, hein, celui-là.
Ils sont le foot, effectivement. Alors,
en off, il m'a dit 3-0. Hein.
Eh bah, écoute,
on verra, on fera les comptes à la fin du match.
Là, vu le scénario, c'est largement possible. Donc, tu nous disais, Mike, effectivement, le premier qui est venu chez toi, c'est Jérôme Golmar. Tu le rappelles, malheureusement, qui est décédé de la maladie de Charcot, qui était un tennisman français. Et donc, après, c'est vrai qu'il est venu avec ses amis. Et donc, tu as eu tous les Français qui venaient disputer le US Open dans ton restaurant.
Ça, ouais, ça fait boule de neige. Tous les ans, on avait plus et plus et plus. Et après, tu parles de Joe. Après, on a eu un jeune Joe à 17-18 ans et je suis venu très proche avec lui.
Songa, hein, là, ouais, tu parles.
Et une fois que t'as Songa, et tu as Songa, ça a changé le milieu de sport qui venait au restaurant après ça.
Bon, alors dis-nous tout, parce que dans les tennisman, il y en a eu quand même beaucoup. Il y en a certains qui ont brillé à l'US Open. On pense à Sébastien Grosjean, on pense à Arnaud Clément, on pense à Joe Wilfried-Tsonga, Gaël Monfils, Lucas Pouille, le plus fêtard.
Ouais, parce qu'ils ont brillé sur les cours.
Il a personne qui fait la fête. Ils étaient sérieux.
Ah bon,
il a pas de fête, non.
Il n'y a pas de fête.
Il y a 10 ans.
C'est bizarre parce que moi, le baratin, on me l'a décrit comme un endroit très convivial, festif, où l'accueil est exceptionnel. Donc,
moi, j'ai entendu qu'ils étaient meilleurs au baratin que sur les tennis.
Je veux me faire tuer là.
On m'avait dit que la première semaine, il la faisait à l'US Open, la deuxième au baratin.
Mais maintenant, j'ai un problème.
Et parfois l'inverse.
Maintenant, je ne sors même pas des qualifs avec les joueurs. Avant, j'allais tout le temps deuxième semaine, mais maintenant c'est plus.
On a un trou générationnel au niveau du tennis français là depuis quelques
surtout
années.
À l'US Open.
C'est Benoît. Il a deux ans de ça. Benoît Paire, il était énervé quand tu rentrais pas en deuxième semaine, mais on t'est énervé quand on sort pas des qualifs. Ouais.
Donc Benoît Paire, gros fêtard. Mais c'est pas un scoop, attends, il y a aucun problème.
Un bon vivant. C'est un des meilleurs mecs que je connais. Donc il a un cœur.
Ça se voit.
Ouais, c'est un bon, lui, c'est un vrai.
Il est très vrai de toute façon. Il est parfois excessif, mais au moins il ne calcule pas. Il y a pas de langue de bois. Il est passionné de football aussi, on rappelle, un supporter de l'Olympique de Marseille. Ouais. Bien sûr.
Moi, je vais dire ce que Mike veut pas dire. Moi, j'ai vu des tennisman vraiment faire la fête chez toi.
Bah, lesquels? On veut les noms, bien sûr. Ouais, mais
je suis pas très très connecté tennis. Mais si tu me les montres,
tu savais que c'était des tennisman. Ah,
ils ont la raquette dans la main.
On va trouver.
Je vais te dire, j'en ai vu quelques-uns faire la fête. Peut-être pas les veilles de match, mais l'avant-veille.
Non mais après, de toute façon, vu qu'on rappelle que parfois les Français avaient des difficultés, une fois qu'ils étaient éliminés, ils pouvaient rester quelques jours New York et venir fêter au baratin tranquillement.
Voilà, venir fêter la défaite.
Non, le bonheur d'être aux États-Unis, écoute.
Mais qu'est-ce qui fait le succès? Pourquoi ils se sentent bien les joueurs de tennis, ou en tout cas les stars sportives?
Le tennis, je pense vraiment que c'est, ils sont aux États-Unis depuis 7-8 semaines.
Ouais.
Ils commencent à Miami, après ils vont à.
Non, pas
à Miami.
Il y a Washington.
Ils commencent à Washington, après ils vont à Cincinnati.
Exactement. Il y a Toronto, Montréal.
Je pense que ça fait 6-7 semaines qu'ils sont aux États-Unis au milieu de nulle part.
Et là, ils décompressent à la fin.
Ouais, et après, ils arrivent et ils trouvent un restaurant français. Mais ça a changé. Avant, les autres, ils étaient tous ensemble. T'avais des tables de 15-20. T'avais Laudra, Mahut, Joe.
Ah ouais.
Maintenant, ils sont tous dans leur clan avec leur coach.
C'est différent.
La nouvelle génération est différente. C'est plus dur à les approcher.
Qu'on rappelle que c'est vrai, c'était vraiment une bande de potes. Là, tu parles, rappelle Mickaël Laudra, Sébastien Grosjean, ouais, Arnaud ça. Clément,
oh, la Coupe Davis, quoi.
La Coupe Davis,
effectivement. Tous, mais même les femmes. Pauline Parmentier, tu peux mettre la dent, c'était toute une.
Et ils t'ont emmené.
Est-ce que t'as eu Émilie Loi?
Oui, bien sûr.
C'est une très bonne copine.
Tu peux demander. Mike, tout va bien et elle a sa
place. Elle nous écoute très souvent, parce que fan de foot également.
Ça, je te promets. Émilie Loi, tu peux dire.
Ah, ben je vais lui envoyer un texto.
Camille Pain, toute cette génération-là.
Et est-ce qu'ils t'ont emmené aussi dans leur histoire tennistique? C'est-à-dire, est-ce que t'as été voir des gros matchs dans les box?
Moi, j'ai fait pas mal de Coupe Davis.
Ah ouais, Coupe Davis,
J'étais en Serbie.
Ah ouais, d'accord. Le 2010, là, quand ils perdent, ouais.
J'étais en Serbie.
Avec Djokovic qui est monstrueux.
Je me suis toujours pas remis.
Ouais.
J'ai fait les deux finales à Lille.
Ok, donc celle-là contre la Belgique et
la Suisse.
Et la Suisse.
Et les Suisses, quand ils perdent contre les Suisses.
Ouais, contre les Suisses.
J'étais à cette finale.
T'as quand Gaël, il tape Federer sur le premier match quand il a un problème au dos. Ouais,
des bons trucs. J'étais invité au dernier de Joe à Roland.
Ok, contre Rude, Casper Rude.
J'étais à ce match.
Ouais.
Ouais, j'ai eu des moments.
Ah ouais, d'accord.
T'es un fan de mariage de Joe.
Ouais. Mais t'es un fan de tennis à la base ou tu?
Non, j'ai rencontré un mec et on avait le même âge, 18 ans à l'époque. Et là, je connaissais rien, les qualifs, les ça. Je connaissais le US Open, mais c'est tout.
Ok, ok.
Et après.
Ils t'ont mis dedans.
Après, je suis rentré
dedans. Pour la petite anecdote, il passe à l'US Open en étant kiné, non, c'est ça? Il donne des accès kiné.
Cette année, c'était mon 24e badge.
En tant que kiné.
L'année dernière, j'étais coach de Nicolas Mahut.
Officieusement.
Ah ouais, d'accord.
Okay. Officieusement.
Très sympa, Nicolas Mahut aussi.
J'étais coach de Benoît Paire aussi une année.
Ah, ok, ok. D'accord.
Ils sont pas très regardants sur les accréditations.
Non, 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 ça va, ça passe, ça passe.
Ça passe plutôt bien. Et ton plus grand moment sur un match de tennis, que ce soit l'US Open, que ce soit Roland Garros, une finale de Coupe Davis, c'est lequel?
Moi, je vais te dire des trucs que tu vas pas trouver normal, mais moi, c'est quand un. Je sais pas, sûrement peut-être vous n'avez pas le connaître, mais comme un Vincent Milo, je sais pas si tu le connais.
Non, là je l'ai pas.
C'est un mec qui a joué 9-10 ans, tous les ans il faisait des qualifs, jamais qualifié, il s'est qualifié. Son dernier réseau, il s'est qualifié, pour moi c'était.
Ah oui.
C'est des petits moments comme ça.
Ok, d'accord.
Il y en a plusieurs comme ça qui sont. Pauline Parmentier qui se qualifie, qui joue Davenport à l'époque dans le grand stade. Mais oui, bien sûr, Coupe Davis.
Et t'as des gros tennisman pas français qui sont venus aussi ou pas?
J'en ai eu plein.
Ah ouais, tu nous as dit ça. Coco Gauff là actuellement, c'est ça?
Ah, Coco, je l'ai depuis qu'elle a 16 ans.
Ouais.
Et tous les ans, quand on est post best restaurant in New York, favorite restaurant in New York, meilleur restaurant in New York.
Ah ouais.
Quand elle vient. Mais elle, je l'ai eu avec Jussé Forel, qui est un de ses entraîneurs depuis qu'elle est petite.
Ok, t'as eu Roger ou pas?
Non.
Et Rafa?
Rafa, j'ai eu toute sa famille, son oncle, son père et tout ça, mais j'ai jamais eu Rafa.
Et Novak?
Novak, je suis même pas sûr que je le sers parce que je me suis pas remis de la Serbie.
Ah oui.
Non.
Alors Coco Gauff, on rappelle qu'il a gagné Roland Garros, c'était en 2025, qui s'est imposé également à l'US Open. Est-ce que tu as déjà eu, parce que moi par exemple, je suis fan absolu de, il y en a deux. Il y a André Agassi et Gustavo Kuerten.
Curtin, non, Agassi, oui, mais tout va bien, le restaurant de mon père.
Ah, et okay. Sympa, André Agassi.
C'est très gentil.
Oh là là, magnifique.
Et les Star NBA, t'as eu de la Star NBA?
Bon, on a eu Wemby mardi.
Non.
Ah, ouais. Donc avant le match face aux Knicks, qui a été évidemment terrible pour les Spurs.
Ouais, on a eu Wemby avec sa famille.
Et il peut rentrer dans le restaurant, il ne se passe rien.
J'ai fermé,
d'accord, ok.
Ils m'ont appelé, restaurant privé, on avait, je ne sais pas, une cinquantaine de raisins. Et j'ai appelé tous les raisins en disant que la hotte de la cuisine avait claqué.
Ah, tu leur as menti.
Enfin, c'est une honte, Mike.
C'est Wemby.
Alors, on est Wemby, on a le droit à la privatisation du restaurant.
Mais
on
est Janine
qui vient de Montluçon.
Ouais, c'est le droit du meilleur burger du monde.
Bah oui, mais enfin bon, là, ceux qui avaient fait leur
c'est
réservation.
C'est les États-Unis, c'est Wemby.
On lui en veut pas.
On ne refuse rien à Wemby. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que tu lui as servi un repas délicieux, le lendemain, patatras.
Ah, t'as vu comment il a commencé le match?
Ah ouais, enfin, j'ai vu comment ça s'est
fini. Tout le monde me textait, mais qu'est-ce que tu l'as donné? Il était.
Plus 29.
Il était le feu au début.
Puis finalement, défaite à un point.
Ouais,
manque de sucre.
Terrible. Terrible. Alors, on a parlé de certains sportifs, on va parler également des footballeurs, parce que c'est vrai qu'au baratin, il y a notamment des maillots qui sont affichés.
Plein. Il a 3 ou 4 maillots de Chano, toutes les équipes qui les appellent.
Qu'est-ce que.
Ah, il faut que tu nous racontes, Maxime Chano. Alors, c'est quoi au baratin? C'est quoi l'histoire?
L'histoire.
Comment t'es arrivé au baratin?
Je pense qu'on l'a résumé, hein. C'est vrai qu'il y avait énormément de sportifs qui étaient. Alors, moi, initialement, j'ai été avec les joueurs des New York Red Bull, que je connais très bien, dont Damien Perinel, Aurélien Collin, Ronald Jubar. C'était eux qui ont presque découvert, j'ai envie de te dire, le restaurant. Et puis, de fil en aiguille, bah, écoute, je les ai suivis, toujours, évidemment, très sérieusement, tu vois, et surtout après les matchs, pour le coup.
Donc, ce qui est quand même génial, c'est que les deux clubs de New York, qui sont quand même ennemis normalement, Red Bull et City, finalement, ils allaient dîner ensemble et
faire des matchs. C'est fake, ça.
Pour aller faire la fête après les matchs.
Et pendant les derbies, on faisait croire qu'on était des ennemis.
Tu fais pas la fête, toi?
Jamais. Fête. Oui, ça dépend ce que t'appelles fête.
Ah oui, t'as fait des mères, t'as fait des pères.
Pour moi, un petit burger avec une mousse au chocolat, c'est une fête.
Exactement.
Quand t'as été footballeur professionnel et que tu manges des salades tous les jours.
Toi, t'es quelqu'un de très festif dans la vie, quoi.
Je suis pas le plus.
La vie, tu le fêtes. Pour toi, la vie,
c'est surtout ça. C'est surtout ça, Walid. Sache-le. Donc, il m'a un peu perturbé, là, Walid.
Non, t'inquiète pas.
Et donc, de fil en aiguille, on est arrivé là et puis c'est devenu un petit peu le repère. C'est devenu un petit peu le repère à tel point que quand on a gagné le championnat, nous, avec New York City, on est venu fêter. Alors, tu vois, ils nous avaient aussi privatisé le restaurant. Comme quoi, il n'y a pas qu'avec
tous les repas, des clubs aussi.
C'est vrai. Donc, souvent, on allait chez lui et puis finalement, tu rencontres toujours des amis, des copains. Steve Savidan, par exemple, la dernière fois, hein, qui est ici chez nous à RMC, que j'ai croisé. Enfin, bref, donc tu croises forcément quelqu'un que tu connais. Et puis, finalement, évidemment, quand t'as un patron comme Mike qui est juste la gentillesse incarnée, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'y aller. Mais c'est vrai que c'est devenu un peu peu le repère de tous les Français à New York. Et je suis très heureux parce que visiblement Walid a apprécié sa venue il y a deux jours.
Ah ouais, non, ils nous ont très très bien accueillis. Ça a été vraiment royal, extraordinaire.
Qu'est-ce et puis que tu as dîné?
On a dîné, alors on a eu
on a eu
de la petite pizza à la truffe, ouais. Petite pizza à la truffe délicieuse. On a, il y a eu un tartare, je crois, mangue saumon.
Un petit croque monsieur,
j'ai laissé ma part aux autres. Et après, on a eu quoi? Après, j'ai mangé des moules. Ouais. J'ai mangé des moules au safran avec des frites,
J'ai pas vu les.
Ouais, c'était pas mal du tout.
C'est
et
un
vraiment.
Banquet,
ouais. On s'est régalé. Il y avait aussi un petit feuilleté au brie qui est un Régis Le Brie, voilà. Comme on l'appelle. Un petit
dédicace à Kevin Diaz parce qu'il l'a mangé seul quasiment.
Ah ouais, il a pas laissé sa part à l'autre.
Ça devait être bon. Donc.
Et puis surtout, la réalité, c'est qu'au-delà de la cuisine délicieuse, c'est le service, l'accueil et puis surtout ce qui se passe à l'intérieur dans la densité. C'est-à-dire qu'on a un milieu de terrain. Vous avez vu le début de match de McKenney? Bah, Maxime Chano est box to box, quoi. Il est à la terrasse, à l'intérieur, ah ouais, à la terrasse, à l'intérieur. C'est-à-dire que
il est partout.
Bah,
j'aime pas le service, c'est bien. Ah, c'est, je me sens chez moi. Ouais.
C'est bise sur bise, c'est serrage de main sur serrage de main.
Non,
c'est...
J'ai senti que l'équipe d'RMC demandait beaucoup d'attention, donc je suis rentré pour aider un peu dans le service.
Bah, bien pour moi, sincèrement, si je sortais du coma pendant 20 ans et qu'on m'avait dit que c'était David Beckham, sincèrement, je
tu crois?
J'y crois vraiment.
David Beckham, est-ce que tu l'as eu comme client?
Maxime, il a fait un truc au baratin que j'oublierai jamais, un truc magique. Il m'appelle à midi, il me dit t'as deux heures pour arriver au baratin, il faut que tu portes une cravate, une costume, une veste. Mais qu'est-ce qui me semble, toi? Alors j'arrive au baratin et lui il arrive avec la presse, la télé,
les gens importants
du club. Et il me dit, en fait, ils me prolonger mon contrat. Et je leur ai dit, quand je signe au baratin. Alors, ils sont venus filmer, prendre les photos et tout. Il a prolongé son contrat au baratin.
Quand tu as prolongé, donc, au New York City.
Je suis parti 6 mois après.
J'ai trouvé ça magique.
Tu leur as mis une carotte.
Oui, j'ai pris l'argent, je suis parti.
Et Mike, on parlait des footballeurs. Quels sont les footballeurs les plus connus que tu as pu servir, que ça soit étranger ou français?
Étranger français. Bon, j'ai Dempsey qui vient souvent.
Patrick.
Ouais,
Patrick.
Non, Clint.
Ah oui, Patrick, c'est l'acteur, non?
Oui, non. Dempsey, c'est le mec dans les.
C'est
le mec dans les hôpitaux, là, comment il s'appelle? C'est Grey's Anatomy. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Mais c'est pas possible.
J'étais plus marqué par Patrick que par Clint, excuse-moi.
Elle est en docteur Mamour, elle, c'est bon, il est quoi? Il est 2h22.
J'adorais cette série.
Et 3h22, elle est en docteur Mamour, elle. Épisode 3 de Grey's Anatomy.
J'adorais cette série. Ah oui. Clint, bon, il m'a moins marqué.
C'est vrai,
mais
c'est
okay.
Ma maman aussi.
T'as pas mal de joueurs de cette équipe, là, d'équipe nationale, qui viennent chez toi.
Ah, Wea, Timothy Wea,
le gardien,
Tyler Adams.
Tous les 10 jours. Ouais. Adams, Tyler Adams.
Qui joue à New York Red Bull.
Polizic.
Polizic, le servi une fois.
Comment on dit Polizic?
Polizic.
Ah oui, là, c'est un autre joueur.
Ah ouais, le mec, il est tchèque. C'est Polizic.
C'est un autre joueur, là, on l'aurait jamais reconnu.
Ah, j'aime beaucoup les prononciations. Tu peux nous faire les prononciations comme ça des joueurs des États-Unis? Tyler Adams, c'est quoi?
Tyler Adams,
ok, ça va, c'est logique.
Matt Freeze, le gardien.
McKenney, comment on dit?
McKenney,
ok, mécanique, d'accord.
Mécanique.
c'est Orange Mécanique. Balogun?
Nous, on a du mal, nous, c'est Balogun. Yeah.
Balogun, ok, d'accord.
Et Berhalter, tu le dis comment?
Bo Halter.
Ok.
C'est Halter.
Prof d'anglais, tu as pensé ou pas?
Ah, j'aime beaucoup.
C'est magnifique. Ah ouais, non, l'accent est incroyable.
Sergio Dest, comment on dit? C'est Dest.
Dest.
Ouais, Dest. Il n'y a pas de.
Et il y a beaucoup quand même de Français qui ont joué aux États-Unis, on le rappelle. Il y a évidemment Youri Djorkaeff, il y a Thierry Henry, il y a Patrick Vieira qui a été entraîneur à New York City. Tous ces gens-là, ils sont venus chez toi?
Tous, je sais. Ou tout va bien au restaurant de mon père à un moment, ou au baratin maintenant.
Tout sympa? Tous généreux
tous,
ou
tous.
Des radins?
Non,
dis la vérité, Mike, non, c'est bon.
Qui lâche les oiseaux?
Qui sont un peu plus.
Il y en a qui partent sans payer.
Ouais, t'en as qui se prennent un peu trop là.
Ah ouais, ouais.
Lesquels partent sans payer?
Non, ça faut pas dire.
Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai.
Non, mais t'en as qui se prennent pour. Ouais, c'est des stars, c'est normal.
Kevin Diaz est parti sans payer.
Et avec un bout de bris dans la poche.
Exactement.
En général, les joueurs, non. Ça peut jamais être problème avec les joueurs.
Et Mike, on me dit que dans ton restaurant, donc qui est vraiment un endroit à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore le baratin qui est situé à West Village, il y a même un Oscar.
Ouais.
Ah, on l'a touché. Ouais. On l'a eu.
Raconte-moi cette anecdote. Ouais, pourquoi il y a
c'est
un Oscar
Kevin
chez toi?
Qui l'a gagné d'ailleurs.
Ouais, exactement.
Il a gagné. C'est un acteur qui a gagné pour Amadeus,
oui,
en français. Il est dans, l'acteur, il est dans Scarface, il est dans Homeland, il est. Et il nous a donné après Covid, parce que...
Mais pourquoi il ne pouvait pas payer la note s'il t'a payé en Oscar ?
Non, mais on va pas parler Covid. Mais moi, pendant Covid, j'étais à l'extrême de les autres à New York. J'ai jamais fermé. J'ai jamais fermé le resto. Et après, il faisait des passes pour les gens qui rentrent et tout ça. Tu devais être vacciné. Moi, j'ai fait l'inverse. Je lui ai dit, si t'es vacciné, tu peux pas rentrer. C'est trop dangereux pour les non-vaccinés. Et t'as l'acteur et tout ça, il trouvait ça magnifique. Et il m'a donné son Oscar.
Ah oui, d'accord. Et donc, l'acteur, on peut donner son nom ?
Ouais, Abraham Murray. Il est dans Scarface, il est dans...
D'accord. Alors, enfin, Abraham Murray, ouais, pour nous qui n'avons pas du tout l'accent, parce que sinon, on ne va jamais retrouver.
Tout le monde le connaît maintenant pour White Lotus. Le
frère, oui, White Lotus, très, oui, bonne série.
Le frère d'Andy.
Ouais.
Ben, peut-être
le cousin d'Andy Murray.
Peut-être que c'est un cousin. Abraham Murray. Donc, tu as un Oscar.
Il m'a donné son Oscar.
C'est, ouais, magnifique. Pour meilleur acteur.
Ça vaut combien, ça, tu penses?
Je ne vais pas regarder.
D'accord, ok.
C'est incroyable. Oui, en plus, c'est de l'or. Hein,
ah ouais, ah, oui.
Et Maxime, attends, Maxime, quand NYCFC a gagné le titre,
oui, à New York. Il a gagné l'Oscar, si.
Non. Mais lui et trois ou quatre autres joueurs, ils m'ont donné pas la catégorie 1, mais ils m'ont donné la catégorie 2, la bague. Ils m'ont fait une copie qu'ils ont gagnée pour remercier le baratin.
Un peu à la Griezmann, tu sais, quand Griezmann a fait une bague de champion. La vraie était trop chère.
Mais attendez, vous faites les bagues comme pour les vainqueurs du championnat NBA?
Bah, la NBA fait surtout comme nous, ouais.
C'est la NBA qui fait comme nous.
Qui a copié,
c'est de la part de 3 ou 4 des joueurs de NYCFC pour remercier.
En parlant de NBA, de MLS, les mecs de ton équipe, ils y allaient là, les Pirlo, les David Villa, etc.
Ils y ont été. Après, ils sont vite partis.
Pourquoi?
Parce qu'ils étaient peut-être trop souvent au baratin,
d'ailleurs. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ah, donc t'étais une mauvaise influence?
Bah, pas moi, Mike.
Ah, d'accord.
Je suis un suiveur, tu sais.
Ah, ok, d'accord.
Franck Lampard, il
venait. Il est vrai, oui, Franck est venu avec moi deux fois. En fait, ce qui est vrai, c'est que Mike a tendance à il nous reçoit très bien. Donc c'est vrai qu'on se sent un peu comme à la maison et
on a envie de revenir.
Et c'est vrai qu'on a envie de revenir et c'est pas forcément très compatible sur une vie professionnelle.
Ils sont en pré-retraite, les mecs, en MLS.
Bah oui, moi j'étais pas.
David Villa,
c'est ton métier, toi.
David est venu aussi. David est venu deux fois. En fait, souvent on venait avec l'équipe.
Il faisait des repas de l'équipe où il venait après les matchs. Quand on avait des matchs tôt, parce qu'il jouait. Il va avoir un nouveau stade bientôt, mais je vois Yankee Stadium qui est pas très loin. Oui. Ça, c'est assez rapide.
Est-ce que Titi Henry est venu?
Oui.
Oh oui, tout va bien, oui.
Ah ouais, tout va bien, d'accord.
Il y a beaucoup Bagatelle aussi à l'époque. Ouais.
D'accord. Et en NBA, est-ce que le King, est-ce que LeBron James est venu?
Non.
Par contre, il y avait souvent Franck qui était là.
Franck Nelikina. Ouais,
mais ce qui est intéressant, c'est que est-ce que tu fais comme certains établissements en France qui veulent aller chercher des guests, des gros stars pour les réseaux sociaux, ou c'est véritablement en fait les gens qui viennent à toi?
Ils viennent. J'ai jamais texté un joueur.
Toi, t'as pas envie, t'as pas besoin, businessment parlant, c'est ils viennent.
Et question un peu plus sérieuse. Est-ce que t'as certains joueurs qui arrivent avec leur cuisinier, en tout cas qui te demandent de manger des repas spéciaux? Je pense évidemment à l'US Open, parce qu'ils sont quand même en pleine...
Avant, on avait des menus, on avait comme un Joe, qu'on était top 10.
Ouais.
On avait qu'est-ce qu'il devait manger, on avait tout organisé.
Donc il t'envoyait avant son menu.
On part d'acteur maintenant. Ouais. Mais tard.
Tarahim.
Ah ouais, c'est mon frère.
Ah ouais, d'accord.
Lui, c'est la pomme.
Lucas, il venait chez toi.
On l'entend pas, Karine.
Dark Vador.
George Lucas, parce qu'il est au stade là actuellement.
Dark Vador.
Il est venu?
Non.
Non, mais non, mais George Lucas est présent ce soir à Los Angeles.
Mais tard, quand il se préparait pour son rôle, là, le rôle.
Aznavour.
Après Aznavour, il pouvait rien manger. J'avais un menu. C'était des glaçons.
Quand il faisait le serpent là, comment c'était
Après le serpent.
Il a joué un rôle là.
Aznavour.
Très bonne série, le serpent là.
Oui, très bon. Ouais, très bonne
série.
Il s'appelle Youri Djorkaeff.
Youri, c'est un des premiers Français à avoir joué en MLS.
Oui.
Il vient souvent, Youri?
Je ne l'ai pas eu au baratin depuis longtemps. Ah. Il est
trop occupé maintenant.
Il travaille notamment pour.
Parce qu'elle aussi, elle connaît très très bien tous les joueurs de 98. Ah,
ouais. Parce que moi, je viens de Saint-Tropez.
Ouais, elle, c'est ça. C'est Saint-Tropez, avec les meufs qui pèsent.
C'est vraiment. Cet enchaînement magnifique.